Bonjour chers amis, nous sommes déjà le 23 mai, le temps passe vite n'est-ce pas? Et merci en tout cas d'être là, merci d'avoir pris le temps de m'accompagner dans la parole de Dieu aujourd'hui, comme vous le faites tous les jours. Merci de votre fidélité et j'espère de tout mon cœur que cette aventure vous fait du bien. Nous lisons une histoire assez captivante, elle est dans 2 Samuel en ce moment, c'est Saül. Saül est mort dans la bataille et David en a été informé. Il s'est installé à Hébron et il est devenu le roi de Juda. Mais il y a encore un autre roi pour les autres tribus. Ish-Boshet, c'est le fils de Saül. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Pour répondre à cette question, je vous laisse avec Sabelle, notre lectrice aujourd'hui. C'est à toi.
2 Samuel, chapitre 2 au chapitre 3, verset 39. Abner, fils de Ner, et la garde d'Ishébal, fils de Saül, quittèrent Mahanaïm et prirent la direction de Gabaon. Joab, dont la mère s'appelait Seruya, et la garde de David se mirent aussi en route. Les deux troupes se rencontrèrent près du réservoir de Gabaon et prirent position de part et d'autre de ce réservoir. Abner dit à Joab, « Je propose que nos jeunes soldats luttent en combat singulier devant nous. » « D'accord, » répondit Joab. Des soldats s'avancèrent. On en compta 12 de la tribu de Benjamin, représentant Ishébal, et 12 de la garde de David. Chaque soldat saisit son adversaire par la tête et lui planta son épée dans le côté, de sorte qu'ils tombèrent tous ensemble. On appela cet endroit de Gabaon, le champ des rochers. Le même jour, un combat extrêmement violent éclata. Abner et ses hommes furent battus par la garde de David. Joab, Abishai et Asaël, dont la mère s'appelait Seruya, étaient présents. Asaël, qui était aussi léger et rapide qu'une gazelle sauvage, se mit à poursuivre Abner sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner, tournant la tête, demanda « Est-ce bien toi, Asaël ?»« Oui, c'est bien moi, » répondit-il. « Poursuis quelqu'un d'autre, à droite ou à gauche, » lui dit Abner. « Essaie d'attraper l'un des jeunes soldats et de t'emparer de son équipement. » Mais Asaël ne voulut pas cesser de poursuivre Abner. Celui-ci reprit, « Asaël, cesse de me poursuivre. Pourquoi m'obliger à te tuer ? Ensuite, je ne pourrai plus regarder ton frère Joab en face. » Asaël refusa pourtant de changer de direction. Alors, Abner le frappa en plein ventre avec l'extrémité de sa lance. Celle-ci ressortit dans le dos d'Asaël, qui s'affaissa et mourut sur place. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où gisait Asaël s'arrêtèrent. Alors, Joab et Abishai se lancèrent à la poursuite d'Abner. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent à Gibeahama, à l'est de Guia, sur le chemin du désert de Gabaon. Les soldats benjaministes se groupèrent en rang serré autour d'Abner et occupèrent le sommet d'une colline. Abner interpella Joab. « Allons-nous sans fin brandir l'épée pour nous exterminer ? Ne comprends-tu pas que cette affaire finira tristement ? Qu'attends-tu donc pour ordonner à tes soldats d'arrêter cette poursuite fratricide ?»« Par le Dieu vivant !» s'écria Joab. « Je t'assure que si tu n'avais pas demandé cet arrêt, mes hommes n'auraient pas cessé de vous poursuivre avant demain matin. » Joab fit sonner de la trompette. Ses soldats cessèrent de poursuivre les Israélites et mirent fin au combat. Abner et ses hommes cheminèrent toute cette nuit-là dans la vallée du Jourdain, puis franchirent le fleuve, traversèrent tout le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab, ayant cessé de poursuivre Abner, rassembla sa troupe. Seuls 19 soldats de la garde de David manquaient à l'appel, en plus d'Asaël. Par contre, la garde de David avait frappé à mort 360 benjaministes et autres soldats d'Abner. On emporta le corps d'Asaël et on le déposa dans le tombeau de son père à Bethléem. Ensuite, Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignirent Hébron au lever du jour. La guerre dura longtemps entre les partisans de Saül et ceux de David. Mais David consolidait de plus en plus sa position, tandis que les descendants de Saül perdaient progressivement leur pouvoir. À Hébron, David eut plusieurs fils. Il eut Amon, l'aîné, d'Ahinoam, de Jizréel, Kilab, le second, d'Abigaïl, veuve de Nabal, de Carmel, Absalom, le troisième de Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur, Adonia, le quatrième, de Haggith, Shephatia, le cinquième, d'Abital, Itréam, le sixième, d'Egla, elle aussi femme du roi. Tels furent les fils de David qui naquirent à Hébron. Tant que la guerre dura entre partisans de Saül et partisans de David, Abner renforça son pouvoir dans le parti de Saül. Saül avait eu une épouse de second rang, du nom de Rispa, fille d'Aïa. À son sujet, Ishbaal dit un jour à Abner : « Pourquoi as-tu couché avec une épouse de mon père ?» Abner fut vivement indigné en entendant ces mots et déclara : « Suis-je un chien à la solde des Judéens ? Jusqu'à présent, j'ai prouvé mon attachement à l'égard de la famille de ton père Saül, de ses frères, de ses amis. J'ai tout fait pour que tu ne tombes pas entre les mains de David. Et toi, aujourd'hui, tu me reproches un écart avec cette femme ? Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si je ne réalise pas pour David ce que le Seigneur lui a promis. Car il a juré de retirer la royauté à la famille de Saül, afin d'étendre l'autorité royale de David sur Israël, comme sur Juda, d'un bout à l'autre du pays. » Ishbaal fut incapable de lui répondre un seul mot, tant il avait peur de lui. Là-dessus, Abner envoya des messagers à David pour lui dire « À qui appartient le pays ? Conclue une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de moi. » David lui répondit « Bien, je suis d'accord de conclure une alliance avec toi. Je ne te demande qu'une chose. Ne viens pas me trouver sans te faire précéder par ma femme, Michal, fille de Saül. À cette condition, tu pourras te présenter devant moi. » Puis David envoya des messagers à Ishbaal, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi ma femme, Michal, que j'ai épousée au prix de 100 prépuces de Philistins. » Alors, Ishbaal fit venir Michal de chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Paltiel l'accompagna. Tout en pleurs, il marcha derrière elle jusqu'à Baourim. Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui et il obéit. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit « Depuis longtemps, vous désirez que David soit votre roi. Eh bien, c'est le moment d'agir. En effet, le Seigneur a déclaré au sujet de David « C'est par l'intermédiaire de mon serviteur David que je veux délivrer Israël, mon peuple, de la domination des Philistins et de tous ses autres ennemis. » Abner parla aussi avec les Benjaministes. Ensuite, il partit pour Hébron afin d'exposer à David lui-même le projet qui avait reçu le plein accord des Benjaminites et des autres Israélites. Il arriva chez David, à Hébron, avec 20 hommes. David leur offrit un banquet. Abner dit à David « Majesté, je suis prêt à repartir et à rassembler tous les Israélites autour de toi. Ils concluront une alliance avec toi et tu pourras alors régner sur tout le pays comme tu le désires. » David autorisa Abner à s'en aller et celui-ci partit en paix. Peu après, Joab arriva avec la garde de David. Il revenait d'une expédition et rapportait un butin important. Abner n'était plus chez David à Hébron, car le roi l'avait laissé repartir en paix. Dès que Joab fut là avec toute sa troupe, quelqu'un l'informa qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Joab entra chez le roi et lui dit « Qu'as-tu fait là ? Abner vint chez toi et tu le laisses repartir ? Tu connais pourtant bien Abner, fils de Ner. S'il est venu, c'est pour te tromper, pour espionner tes allées et venues et savoir tout ce que tu fais. » Joab sortit de chez le roi et chargea des messagers de rattraper Abner. À l'insu de David, il le fit revenir de la citerne de Sira. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'attira à l'écart, à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler confidentiellement. Et là, il le poignarda en plein ventre, le tuant pour venger la mort de son frère Asaël. Dès que David apprit ce qui s'était passé, il s'écria « Le Seigneur le sait, moi et mon royaume, nous sommes à jamais innocents du meurtre d'Abner, fils de Ner. que seul Joab et toute sa famille en subissent les conséquences, qu'il y ait toujours dans cette famille des hommes atteints d'écoulements impurs ou de lèpre, des hommes réduits à des occupations féminines, des hommes qui meurent de mort violente ou qui manquent de nourriture. C'est ainsi que Joab et son frère Abishai assassinèrent Abner parce que celui-ci avait tué leur frère Asaël lors du combat de Gabaon. David dit à Joab et à tous ceux qui l'accompagnaient : Déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'étoffes grossières et prenez part à la cérémonie funèbre en l'honneur d'Abner. Le roi David lui-même marcha derrière le corps du défunt. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur sa tombe et toute la foule pleura aussi. Puis le roi prononça la complète suivante au sujet d'Abner. Pourquoi es-tu mort, Abner, d'une mort digne d'un insensé? Tu n'avais pas les mains liées ni les pieds enchaînés. Pourtant, tu es tombé mort comme un homme surpris par des criminels. Tous les assistants continuèrent de pleurer. Ensuite, ils s'approchèrent de David pour lui offrir de la nourriture, alors qu'il faisait encore jour, mais le roi fit ce serment. « Que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions si je mange un morceau de pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Le peuple entier en eut connaissance et l'approuva. D'ailleurs, le peuple approuvait toujours ce que faisait le roi. Ainsi, toute la population de Juda et tous les Israélites surent ce jour-là que ce n'était pas le roi qui avait ordonné d'assassiner Abner, fils de Ner. David dit encore à ses ministres, « Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, un chef, un grand chef d'Israël est mort ? Moi, malgré mon titre de roi, je me sens actuellement faible par rapport à la violence de ces hommes dont la mère s'appelle Séroua. Que le Seigneur veille donc les punir lui-même d'avoir commis ce crime. » Jean, chapitre 13, versets 1 à 30. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, « vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit, « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu ne laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, tu ne me laves pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain, n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propre, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne vous parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que cette parole de l'Écriture se réalise. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque reçoit celui que j'envoie, me reçoit aussi. Et quiconque me reçoit, reçois celui qui m'a envoyé. » Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit solennellement, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Simon Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda, « Seigneur, qui est-ce ?» Jésus répondit, « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce qui leur était nécessaire pour la fête ou d'aller faire un don aux pauvres. Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Psaume 119, versets 1 à 16. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour que l'on respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci, Seigneur, de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres m'est réjoui comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences. Eh bien, regardez la voie que tu me traces. Je suis ravi de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. Proverbes 15, versets 29 et 30. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces.
Merci Sabelle pour ta lecture. Et aujourd'hui, nous lisons un passage de l'Écriture issu du livre des Psaumes. Oui, ce livre illustre l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Et de toute évidence, le psalmiste qui a écrit ce psaume, le psalmiste a adoré la parole de Dieu. Il en parle comme l'unique façon de rester pur. Il le décrit comme ayant plus de valeur que de multiples richesses. Et il l'a caché dans son cœur pour la méditer jour et nuit. Mais nous ne pouvons cacher la parole de Dieu dans notre cœur ni méditer sur elle si nous ne prenons pas le temps, non, de la lire quotidiennement. Je crois que c'est la seule façon d'avoir une juste vision de notre vie. Cela est crucial pour notre santé spirituelle en tant que croyant. Alors, permettez-moi de prier. Seigneur, nous te demandons de nous donner cette soif pour ta parole, afin que nous puissions, justement, comme le psalmiste, la cacher dans notre cœur. Que nous puissions avoir envie de prendre le temps de la lire, de l'écouter quotidiennement, de la méditer, de l'aimer et de vouloir en tirer l'enseignement que toi tu veux que nous puissions en tirer pour nos vies. Oui Seigneur, donne-nous cette soif pour ta parole. Amen. Quelques annonces maintenant. Chers amis, comment avez-vous trouvé la Daily Audio Bible? Est-ce que c'est par hasard ou vous avez cherché quelque chose de spirituel sur Internet, sur iTunes,
où vous aviez peut-être envie d'écouter la Bible entière. C'est comme ça que vous nous avez trouvés. Est-ce que quelqu'un vous en a parlé peut-être? Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui cherche, comme vous l'avez fait, quelque chose comme la Daily Audio Bible. Alors nous croyons que la parole de Dieu est très puissante, qu'elle est capable de changer la vie d'un individu, d'une église entière, voire même d'un pays. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis maintenant au revoir et à demain pour la suite de votre podcast.